C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Afrique Matin, ça continue sur RFI.
Afrique Matin sur RFI.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 5h, temps universel de la littérature au Sénégal, au programme Littérature au féminin, puisque Dakar accueille la 3e édition d'un salon consacré aux autrices du continent. Nous serons dans la capitale aux côtés de l'association Culture L, à l'initiative de ce projet. Un détour par l'Allemagne à suivre. Bruno Daroux se penche sur la chute du gouvernement d'Olaf Scholz et ses conséquences pour le pays, puis de la politique en Côte d'Ivoire également. Notre invité ce matin a récemment déclaré sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Le député du PDCI-RA et ex-ministre Jean-Louis Billon, en pleine passe d'armes avec son chef de parti Tidjane Thiam. Il s'expliquera au micro de Frédéric Garat dans une grosse dizaine de minutes. Voilà, vous savez tout et on commence tout de suite par le sport. Et le sport, c'est avec vous, Christophe Direnzian. Bonjour. Alors, du football pour commencer. La dernière ligne droite vers le Tchan 2025 est entamée avec les matchs aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires.
Oui, encore 15 places à prendre en fin de semaine prochaine si on met de côté notamment les trois pays hôtes, Kenya, Tanzanie et Ouganda, et le Maroc, qualifié d'office après le désistement des autres nations de la zone Afrique du Nord. Les sélections exemptées de premier tour entrent en action et bien entrées dans le cas de la Guinée, victorieuse hier de la Guinée-Bissau 4-1 à l'issue d'un match délocalisé à Abidjan. Le Sili National A' a fait la différence en seconde période pour envisager le retour avec une certaine confiance. Le sélectionneur Souleymane Camara est satisfait que ses joueurs aient trouvé des solutions face à un adversaire, il est vrai, peu connu.
Nous avons pris une option sur les adversaires. Pour un premier temps, jouer contre un adversaire, je l'avais dit au départ, c'est très difficile. Il fallait d'abord avoir une idée avant d'attaquer haut. Et c'est ce qui fut fait. Et on les a mis en danger à un moment donné. Il y a eu des buts tout de suite. Je suis très content de mes poulains. Mais vous savez, le football, il ne faut pas vite aller en besoin. En tant que sélectionneur, c'est de continuer à faire mon boulot, corriger les lacunes, regarder les images après et on aura le temps. Nous avons encore 7 jours pour le match retour et améliorer tout ce qui a marché. Nous avons eu la volonté aujourd'hui de marquer 4 buts. Le plus important d'abord, peu importe la manière, c'est de se qualifier. On va bien préparer le match retour avant d'aller à Bissau.
Souleymane Camara avec Moulamine Sissavané. Ce match retour est fixé à samedi prochain.
Christophe, 6 nouvelles rencontres au programme aujourd'hui.
Et notamment Tchad-RDC pour l'attribution d'un des 3 tickets dévolus à la zone UNIFAC, autrement dit l'Afrique centrale, où ces qualifications ont lieu en fait sur ce seul second tour. Là encore, ça se passe à Abidjan, avec des léopards A' peu expérimentés et pas très au fait des réelles qualités des Tchadiens, faute d'informations récentes sur leur compte, rappelle leur sélectionneur Otis Ngoma-Kondi.
Cette équipe tchadienne, on l'a rencontré il y a 2 ans, mais les matchs ne se ressemblaient pas, surtout les époques. Je sais qu'ils ont eu des stages, ils ont eu, je crois, 1 ou 2 matchs amicaux, mais on a du mal à voir des images. Donc, on va découvrir cette équipe sur le terrain. Mais nous, notre ambition, c'est de se qualifier avec nos moyens, nos forces et nos faiblesses s'il y en a. C'est une nouvelle génération. On est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers champs ne sont plus là. On a gardé que 4 joueurs. Donc c'est tout, ce sont des jeunes, vous voyez même son visage, c'est des gamins aujourd'hui qui sont en train de découvrir là, en même temps leur premier match.
Des propos recueillis par Olga Massongu à Kinshasa, Tchad RDC, 17h, temps universel. Auparavant, Burundi, Ouganda, les Ougandais quand même en lice pour l'honneur. Lesotho, Angola, Guinée équatoriale, Congo, Mozambique, Zambie et Eswatini, Madagascar. Un petit crochet par le basket et la NBA pour terminer et pour noter le grand match de Joel Embiid cette nuit avec les Sixers de Philadelphie, vainqueur à demi. Les Charlotte Hornets 108 à 98 dans la conférence Est, 34 points, 9 passes décisives et 5 rebonds pour le pivot star.
Christophe Direnzian, merci pour toutes ces précisions. Le journal des sports, allez, on va tout de suite aller ouvrir un livre et on va partir au Sénégal. Et à Dakar plus précisément, puisque la capitale sénégalaise rend en ce moment hommage aux autrices du pays et de tout le continent africain. 3e édition du salon du livre féminin. Derrière cette rencontre, le collectif Les Cultures L, qui cherche à promouvoir les industries culturelles au féminin au Sénégal et sur l'ensemble du continent. Donc au programme, stand de livres, panel de discussion ou encore remise de prix, Juliette Dubois s'est rendue à l'ouverture de ce salon. Reportage.
Au programme ce vendredi matin, un panel sur les femmes et l'immigration clandestine, ainsi que la présentation d'un recueil de nouvelles. La romancière et scénariste Amina Sek coordonne les derniers détails. Avec son collectif Les Culturels, c'est elle qui a créé le salon en partant de sa propre expérience.
Moi, en tant que romancière, j'arrive dans ce milieu, mais bon, je ne suis pas au courant des activités littéraires, des événements littéraires, comme un salon du livre. Et quand je suis au courant, j'y vais en tant que spectatrice, mais pas en tant qu'actrice. Les femmes n'étaient pas mises en avant, ou bien peu de femmes étaient mises en avant, et surtout, c'était des femmes qui sont déjà connues, qui ont publié des livres depuis les années 80.
Renouveler la littérature féminine et proposer de nouveaux noms en dehors des classiques comme Maria Maba. Au salon, de nombreux stands présentent les ouvrages de jeunes autrices, comme celui de la maison d'édition L'Armatan. Son responsable communication, Papa Sengandiaye, reçoit de plus en plus de manuscrits écrits par des femmes.
On reçoit beaucoup de manuscrits chez les jeunes filles, surtout ceux qui écrivent les romans, les nouvelles, la poésie. Le thème général, c'est le féminisme, ça revient toujours. C'est l'affirmation surtout de la femme. Elle écrit aussi sur la tradition.
Le pays invité cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Plusieurs écrivaines ont fait le déplacement, comme Nania Koulibaly, secrétaire de direction. Elle a publié deux ouvrages. Le premier s'appelle Naïma.
Le thème est toujours d'actualité. C'est sur le mariage forcé. C'est pas seulement dans mon pays, puisque lors de mes dédicaces, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de femmes d'autres pays qui m'ont confirmé qu'effectivement, c'est une situation qui existe encore.
Amina Sek veut que le salon soit un espace où les femmes se sentent à l'aise pour prendre la parole et partager leur vécu.
Beaucoup ont décliné, je ne sais pas pourquoi, parce que la plupart m'ont dit que non, je ne sais pas trop parler en public. Je pense que c'est une occasion aussi pour qu'on puisse se retrouver, parce qu'on n'arrête pas également de dire que les femmes n'arrêtent pas de se plaindre dans leur production littéraire. Bah, on ne se plaint pas, on raconte nos vies.
Un lieu de rencontre et pourquoi pas de nouvelles opportunités, c'est en tout cas ce que souhaite l'Ivoirienne Assita Sidibé.
Qu'on ait de belles âmes, qu'on ait des éditeurs, pourquoi pas, parce qu'il arrive que des écrivaines d'autres pays soient produites par des maisons d'édition en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas faire l'inverse?
10 femmes sont également formées en résidence sur la création et l'écriture de nouvelles et 2 prix littéraires seront remis. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI, samedi 21 décembre, il est 4h49 en temps universel. Les titres de cette matinée, les États-Unis se disent choqués et attristés. L'Arabie Saoudite dit sa solidarité, l'Espagne, l'Italie, la France sur le même ton. Nombreuses réactions internationales après l'attaque qui a touché le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne hier. Un homme au volant de sa voiture a foncé sur la foule, faisant 2 morts et 60 de blessés. L'homme en question est un docteur d'origine saoudienne. Il a été arrêté, d'après le ministre président du Land de Saxe-Anhalt. Il a agi seul. Aux États-Unis, le spectre du shutdown s'éloigne. À quelques heures de la limite, la Chambre des représentants a adopté cette nuit un texte visant à paralyser la paralysie de l'État fédéral. C'est désormais au Sénat américain de se pencher sur ce texte. Et puis les États-Unis, dont les émissaires en Syrie, ont rencontré les nouveaux maîtres de Damas, notamment Mohamed al-Joulani, le nouvel homme fort du pays, des nouvelles autorités syriennes qui disent vouloir œuvrer pour la paix dans la région et pour la construction de partenariats stratégiques avec ses voisins. Vous l'entendiez donc dans les titres internationaux, l'Allemagne sous le choc après un possible attentat dans la ville de Marbourg. Nouveau drame pour un pays déjà plongé dans une crise politique profonde. Le monde en question se penche ce matin sur l'avenir du pays après la décision du chancelier Olaf Scholz d'affronter un vote de défiance au Bundestag, le Parlement. C'était lundi, confrontation qui a sans surprise provoqué la chute de son gouvernement, la dissolution du Bundestag et la convocation d'élections générales anticipées le 23 février prochain. Nous sommes avec Bruno Daroux. Bruno, doit-on s'attendre à un changement de cap en Allemagne ?
Eh bien, cela paraît probable, du moins à en croire les enquêtes d'opinion actuelles. Selon ces sondages, c'est la CDU, le parti chrétien-démocrate, dirigé aujourd'hui par Friedrich Merz, qui fait la course en tête, crédité de 30 à 32% des voix, loin devant le SPD, les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz, qui obtiendrait environ 15% des voix. La formation d'extrême droite AfD est-elle annoncée avec un score autour des 20%. On assiste donc à la fin de la coalition SPD Verts Libéraux menée par Olaf Scholz et la victoire semble à ce stade en vue pour Friedrich Merz.
Un dirigeant qui revient de loin.
Oui, le parcours et l'histoire de Friedrich Merz sont assez incroyables. Élu dès 1994 au Bundestag, il a vite vu son ascension stoppée par une certaine Angela Merkel, qui lui ravit en 2002 la présidence du groupe parlementaire de la CDU. Il se fait discret jusqu'en 2009, date à laquelle il quitte la politique pour redevenir avocat d'affaires. Ce n'est qu'en 2018 qu'il revient dans le jeu, quand Madame Merkel annonce son retrait et qui prend effet en 2021. Friedrich Merz est donc débarrassé du fantôme de sa plus tenace adversaire. Il prend les rênes de son parti et à 69 ans, il pense aujourd'hui que son heure est enfin arrivée.
Et Bruno, il revient avec un programme libéral en économie et conservateur sur les questions sociétales.
En effet, il accuse Olaf Scholz d'avoir raté sa chance au cours des trois dernières années. Il entend appliquer, s'il est élu, un programme libéral très orthodoxe, respect du frein à la dette, inscrit dans la Constitution, baisse d'impôts, allègement des droits de succession. Il veut aussi mettre fin au programme de remplacement des chaudières au gaz ou au fioul, entamé par l'actuel gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique et qui fait l'objet d'un débat passionné outre-Rhin. Un programme à l'opposé de celui de son adversaire Scholz, alors que l'Allemagne traverse une vraie crise économique et risque d'être en récession pour la deuxième année consécutive, avec son secteur à l'exportation en difficulté, notamment dans le secteur de l'industrie automobile. On pense bien sûr à Volkswagen. Conservateur sur les questions de société, il veut par exemple abolir la loi sur la légalisation du cannabis qui a été adoptée par la majorité sortante.
Et face à lui, un chancelier sortant, donc Olaf Scholz, qui ne s'avoue pas pour autant vaincu.
Non, le chancelier reste combatif. Il a été désigné comme le candidat du SPD. Alors il part, certes, avec un lourd handicap, mais cela ne lui fait pas peur. En 2021, déjà, on le donnait perdant et il avait remporté le scrutin. La grande question sera celle de la coalition. Nous n'y sommes pas encore, mais le choix que feront les Allemands, un mois après l'investiture de Donald Trump, en pleine guerre en Ukraine, aura bien sûr des conséquences importantes pour l'Europe et notamment pour la France.
Bruno Daroux, le monde en question. Il est 4h53 en temps universel sur RFI, même heure à Abidjan. La Côte d'Ivoire, où l'élection présidentielle doit se tenir en octobre prochain, et parmi les principaux partis politiques pouvant faire obstacle au RHDP d'Alassane Ouattara, il y a le PDCI RDA qui n'a pas encore désigné son candidat. Pour cause, la formation est empêtrée dans une série de passes d'armes entre son président Tidjane Thiam et le député ex-ministre Jean-Louis Billon, qui a déclaré sa candidature pour cette présidentielle via les réseaux sociaux ou des interviews télévisées. Chacun estime que l'autre n'est pas le bon choix pour représenter le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Alors que Tidjane Thiam tient ce samedi à Abouasso un meeting pour célébrer l'anniversaire de son accession à la présidence du PDCI, Jean-Louis Billon est notre invité ce matin sur RFI. Il répond aux questions de Frédéric Garrard.
Jean-Louis Billon, bonjour.
Bonjour.
Au regard des échanges auxquels on assiste en ce moment entre vous et Tidjane Thiam, on se dit que les primaires au PDCI ont commencé ?
Bon, il n'y a pas vraiment d'échange entre nous. J'ai simplement donné mon point de vue sur ce qui se passait au niveau du parti et pour les futures élections. Bon, on peut considérer que ce sont des primaires, mais il faudrait qu'elles soient officielles. Pour l'instant, elles ne sont pas.
Vous parliez d'échanges. On a plutôt l'impression que ce sont des invectives entre vous et Tidjane Thiam, le président
du PDCI.
Non,
pas vraiment. Entre lui et moi, il n'y a pas d'invectives. J'ai simplement fait remarquer qu'au niveau de la gestion du parti, il y avait des choses à redire. C'est tout. C'est un point de vue que partagent beaucoup de militants au sein du parti et que le parti se doit de faire un bureau politique, un congrès avant la convention. Ce serait normal. Surtout que nous avons un nouveau président. Il faut qu'il vienne exprimer sa vision, qu'il y ait un débat entre lui et les militants pour le futur du pays.
Ce débat qu'il y a entre vous et Tidjane Thiam, doit-il avoir lieu sur le fond, vos programmes respectifs pour le pays et la ligne que doit tenir, justement, vous le disiez, le PDCI, ou bien sur la forme, à savoir que les enfants de Thiam ne sont pas scolarisés à Abidjan ou que le président du PDCI n'a pas payé ses impôts depuis longtemps en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous disiez dans les...
Non, ce que je disais simplement, c'était qu'une absence prolongée du pays lui interdisait de participer à certains débats de la nation quand le débat politique va commencer. C'est une remarque qui est somme toute pragmatique. Vous ne pouvez pas être absent pendant 23 ans du pays et penser que vous allez répondre aux attentes des Ivoiriens que vous ne connaissez pas vraiment et que vous n'avez pas vécu. C'est juste un point de vue. Je ne connais pas d'exemple sur la planète d'un acteur politique qui s'est absenté pendant 23 ans sans discontinuer et qui est revenu tout de suite faire le grand chelem et remporter l'élection présidentielle.
Oui, mais cette longue absence que vous mentionnez concernant Thiam, ça ne l'a pas empêché d'emporter la présidence du PDCI ?
Non, parce que c'était voulu. Il n'a pas vraiment eu de concurrent.
En tout cas, cette contestation, Jean-Louis Billon, elle vous vaut d'être convoqué devant une commission de discipline du PDCI. Vous la craignez, cette commission ?
Non, pas du tout. D'abord, il faut faire remarquer que la convocation était antérieure à ma dernière intervention télévisée. Donc ça veut dire que déjà, on me voulait des problèmes avant que je ne m'exprime.
Est-ce que vous ne vous dites pas, Jean-Louis Billon, que plus vous perdrez de temps à vous accorder au sein du PDCI, moins vous en aurez pour faire campagne, que ce soit vous, Tidiane Thiam ou un autre candidat désigné par le PDCI, que tout ce temps ou cette énergie perdue...
Alors merci, parce que notre véritable adversaire, c'est le pouvoir en place. La grande question qui se pose, c'est Alassane Ouattara sera-t-il candidat ou non? Et si ce n'est pas lui, qui est-ce que le RHDP va présenter? Et ce sera un adversaire redoutable dans tous les cas de figure. Donc voilà pourquoi il faut qu'on se prépare à cela.
Si d'aventure, vous n'étiez pas investi par le PDCI pour la prochaine présidentielle, est-ce que vous seriez prêt à faire une candidature indépendante?
Alors je ne sais pas encore. J'ai dit tout dépend de comment sera menée la convention. Et j'ai clairement dit que si jamais cette convention était bien organisée, totalement transparente, je me soumettrais au verdict des urnes. Mais déjà, le conseil de discipline est un mauvais signal.
Mais je repose ma question quand même. Vous êtes un homme politique, donc vous devez prévoir un ou deux coups d'avance. Si vous n'êtes pas investi par le PDCI, est-ce que vous envisagez une candidature indépendante?
Je vous ai déjà répondu, je vous ai dit.
Un ralliement à notre parti.
Si j'ai gagné, je serai investi par le PDCI.
Et sinon, vous pourriez vous rallier à d'autres?
Non, je ne peux pas me rallier à d'autres partis. Je suis PDCI, point.
Jean-Louis Billon, vous venez d'avoir 60 ans, Tidiane Thiam en a 62. À partir de quel âge est-on trop vieux pour prétendre conduire un pays comme la Côte d'Ivoire?
Nous sommes un pays très jeune. On a fait sauter le verrou de l'âge il y a quelques années, et moi je fais partie de ceux qui ont regretté qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. Donc il faut savoir que dans le droit des sociétés ivoiriennes, on vous interdit d'être administrateur au-delà de 75 ans. Pourquoi? Le fait est qu'en politique, la durée de vie est beaucoup plus longue, c'est un fait. Donc, si jamais nous arrivons au pouvoir, j'espère qu'on va changer la constitution et revoir l'âge limite.
Et quand on a 83 ans, comme Alassane Ouattara, est-ce qu'on peut prétendre à un quatrième mandat pour la Côte d'Ivoire?
Le débat ne va même pas se passer sur est-ce qu'on peut prétendre avoir un quatrième mandat à partir du moment où il a fait le troisième mandat considéré comme le premier d'une nouvelle République,
de la nouvelle constitution.
Il sera dans le second de la République en question. Si on perd son temps à être dans ce débat-là, on risque encore de moudre du grain qui ne va rien donner. Donc il faut s'attendre à ce qu'il soit candidat, et ce sera un candidat redoutable.
Vous vous attendez à ça? Vous attendez à ce que Alassane Ouattara rebelote à la candidature?
Oui, je m'y attends, parce que c'est une demande que l'on voit récurrente au sein de son parti, et s'il répond favorablement, bon, il faut s'apprêter clairement affronter quelqu'un qui a un bilan, qui a toute une partie de la population qui attend encore de lui. De toute façon, dans cette nouvelle République, il ne pourra pas faire de troisième mandat.
Jean-Louis Billon, je vous remercie.
Merci.
Un entretien retrouvé bien sûr en intégralité sur le site internet de RFI et sur l'ensemble des plateformes de podcast. C'est la fin de cette édition d'Afrique Matin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Hugo Vallière avec moi en studio, à la technique, à Xavier Besson qui a préparé cette édition. Prochain rendez-vous d'information africaine dans 30 minutes avec Fabien Albert. La suite, c'est RFI Matin et ce sera avec Julien Coquel-Rohem.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Quel dialogue possible entre hindouisme et christianisme? Le livre de Yann Vagneux, Une émulation de sainteté, est une invitation à ce dialogue et une plongée dans l'hindouisme et la ville sainte de Bénarès, créée par le dieu Shiva, posée sur le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.